Prions ensemble.
Père Céleste, merci pour cette journée. Merci pour ce moment que nous avons d'être ensemble, d'étudier ta parole et voir comment tu as, à travers les siècles, fait prononcer ta parole par tes prophètes. Nous te remercions, Père, pour le plus grand des prophètes, pour Jésus, qui est venu, qui a annoncé sa mort, sa résurrection, et qui a vécu fidèlement au plan que tu as préparé pour lui. Merci, Père, qu'aujourd'hui nous pouvons apprendre de toi. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.
Amen.
Voilà, alors bienvenue à tous pour ce moment d'étude. Et puis aujourd'hui, ça sera donc du travail à faire. Il faudrait, bien sûr, comme nous commençons une étude sur les prophètes de l'Ancien Testament, alors il faudrait une Bible avec un Ancien Testament, d'accord? Donc, regardez dans vos Bibles, si ça commence avec Genèse, vous êtes bon, ok? Ça va bien. Si vous avez que les psaumes, ça va pas vraiment fonctionner pour vous aujourd'hui. Donc, bienvenue à tous qui vous êtes levés tôt ce matin pour venir pour étudier la parole. Donc, Dieu bénisse ce moment que nous avons ensemble. Je crois que, comme vous avez entendu il y a quelques semaines, il y a Adam qui nous a dit que nous allions étudier les prophètes pendant un bon moment. Et juste pour que vous sachiez, c'est pas une mauvaise chose d'étudier les prophètes. Quand vous regardez vos Bibles, il y a 23% des pages de votre Bible, ce sont des prophètes de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, vous commencez avec Ésaïe et vous regardez le dernier, c'est Malachie. Donc, 23% de votre Bible consiste en prophète écrit, prophétie écrite de l'Ancien Testament. Donc, si ça prend une si grande partie de notre Bible, je crois que ça vaut la peine quand même une fois tous les 10 ans de regarder un peu ce que les prophètes ont dit. Et quand nous parlons de cela, donc il faut d'abord qu'on se mette un peu dans le bain de ce monde des prophètes dans l'Ancien Testament, parce qu'il faut savoir qu'on est en train de parler de toute cette période de temps qui couvre plus ou moins 400 ans de temps. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal, et c'est une période assez grande, assez longue, quand nous regardons ça, et puis vous regardez les Bibles, c'est 23%, mais comment les situer, c'est quand même pas très évident, quel est le contexte de chacun. Ce n'est pas très évident non plus. Donc, ce matin, le but que nous avons, c'est juste un peu pour les situer dans le contexte historique. Si vous voulez prendre quelques notes, comme ça, vous restez réveillé. Ça ne serait pas une mauvaise chose, spécialement pour votre enseignant de ce matin. Puis, la deuxième chose que nous allons voir, c'est que l'importance, qu'est-ce que c'est que la prophétie et l'importance pour nous aujourd'hui. Donc, ça va, vous êtes prêts? Ouais, d'accord, très bien. Alors, là, on va se lancer avec cette étude des prophètes. Première chose, c'est de savoir que quand vous lisez les Écritures, il y a différents types de prophètes. Par exemple, quand j'ai mis ici sur le tableau, comme ça vous voyez très vite, puis après je retourne ici. OK? Alors, là, sur le tableau, vous voyez rien de tout, je sais. Donc, pour les 3 personnes qui voient ici, ce que nous avons, c'est que il y a une période dans l'histoire d'Israël qui est, on peut appeler ça la période des rois, donc Israël uni. Et pendant cette période, nous avons Saül, David et Salomon. Alors, le grand prophète qui revient plusieurs fois dans la vie de Saül et de Samuel, il s'appelle Samuel, n'est-ce pas? Et David, c'est Samuel. Et donc Samuel va voir Saül, va souvent l'appeler aussi à la repentance, et puis c'est lui qui va rendre David dans le village de Bethléem. Après, donc, il y a David, et Samuel va correspondre un peu à la vie de David, mais il y aura un autre qui s'appelle Nathan, il y en a encore un autre qui s'appelle Gad, je crois. Mais il y en a plusieurs qui sont là. Et puis, Salomon aussi a des prophètes qui vont venir chez lui et qui vont, par exemple, appeler à la repentance, à lui dire ce qui va se passer, etc. Et cela dure jusqu'à l'année, et je sais que vous n'aimez pas les dates, mais plus ou moins 920 avant Jésus-Christ, ok? On a une période de 100 ans où on a ces prophètes qui sont les prophètes, on va dire, des prophètes des rois, ok? Même si c'est pas la meilleure chose. Et ces gens, ils ont écrit quel livre de la Bible? Okay? Bon, aucun, d'accord. Donc, on a aucun livre qui est écrit. On a un livre qui s'appelle 1 et 2 Samuel. Mais nous savons que c'est pas Samuel qui l'a écrit, parce qu'il y a une bonne partie qui, après sa mort, bon, peut-être il a écrit après, mais bref. Vous voyez, ça raconte quand même comment la dynastie de David a été établie.
et aussi la chute de Saül.
Mais là, on a 1 et 2 Samuel. Probablement, ce n'est pas Samuel qui l'a écrit, mais un historien juif inspiré par Dieu
qui a fait cela. À ce moment-là, donc, après la mort de Salomon, vous vous souvenez que le royaume est divisé en 2 parties.
Et ça, c'est à cause de la désobéissance de Salomon. Dans le nord, donc, nous aurons Israël qui aura plein de dynasties différentes qui vont succéder les uns après les autres. Le premier que nous avons en haut, il s'appelait Jéroboam. Alors, c'est très il y a beaucoup de confusion parce que on commence avec un Jéroboam, et puis plus tard, on tourne les pages, et puis il y a un autre Jéroboam. Okay? Et c'est pas le même Jéroboam, c'est juste quelqu'un qui avait le même nom. Okay? C'est comme vous rencontrez quelqu'un qui s'appelle Brady. Okay? C'est pas le même qui gère, par exemple, Crédit Suisse. Okay? C'est pas le même, juste que vous soyez au courant. C'est un peu la même chose. Et il y a cette série de rois qui vont donc être les rois d'Israël dans le nord jusqu'à l'année 721. Okay? C'est pas très important cela pour vous, mais pour eux c'est très important parce que c'est à ce moment-là que les Assyriens sont venus. Et il faut savoir que les Assyriens, ils ont, leur capitale est à Ninive. Okay? Ça vous dit quelque chose, Ninive? Et les Assyriens, donc, ils vont venir et ils vont détruire tout le nord et ils vont aussi assiéger Jérusalem sans le prendre. Okay? Et donc, ça sera l'Empire des Assyriens.
Oups, je ne sais même pas comment l'écrire. Hein.
Juste les Assyriens. Okay? Donc, les Assyriens seront là. Les Assyriens seront suivis par quel empire? Vous vous souvenez?
Très bien, les Babyloniens. Bravo. On va éliminer cela par les Babyloniens dans une grande bataille qui s'appelle bataille de Carchemish.
C'est pas très important. Pour eux, c'était très important. Pour nous, c'est pas le cas. Mais donc, les Assyriens, ils vont détruire le nord. Et puis, dans le sud, Juda et Jérusalem, ça va continuer pendant un petit moment. D'accord? Ça va continuer jusqu'au moment où les Babyloniens, et c'est pas bien écrit là, vont venir détruire Jérusalem. Et là, on pense que c'est plutôt autour de 587 avant Jésus-Christ. D'accord? Donc, ça fait quand même un moment. Ils vont venir et détruire Jérusalem et ils auront pris en captivité. Donc, on a ces prophètes qui sont là. Et puis ici, on a ce que j'appelle les grands prophètes qui n'ont rien écrit, qui sont dans cette période de temps, des rois dans la division tout au début. Ils s'appellent Élie et Élisée. Et vous vous souvenez de leurs histoires, n'est-ce pas, quand vous lisez un roi et deux rois, vous tombez dans ces histoires d'Élie. Par exemple, quels sont les miracles d'Élie?
Juste pour vous réveiller, les miracles d'Élie, c'est qui? Quoi?
Voilà, donc c'est plus que cela, c'était 3 ans, ok? Il n'y avait pas de pluie pendant 3 ans, et puis c'est lui qui a après les sacrifices avec les 450 prophètes de Baal, etc., il va prier, et puis les nuages vont venir, et Achab doit rentrer chez lui, à Samarie, rapidement, etc. Ok, quoi d'autre? Vous vous souvenez d'autres qu'Élisée et Élie ont fait? Même si vous ne savez pas qui a fait quoi, les miracles de cette époque-là, ouais?
Oui, la veuve de Sarepta, qu'est-ce qui s'est passé avec cette Sarepta?
Ouais. L'huile, oui, voilà, c'est. Ouais. Donc, cherchez tous les différentes bocales, les bocaux, et puis cherchez, puis on a commencé à remplir, et puis ça a rempli assez pour elle de tout vendre, etc. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y avait autre chose? Oui. Alors, c'est Élie qui est monté au ciel, ouais, dans le tourbillon, ok? Voilà, ça c'est quand même un miracle, hein. Je dirais c'est un grand miracle. Oui, il y avait la résurrection d'un garçon, donc ouais, de Sarepta aussi. Donc plusieurs miracles, vous pouvez les lire, et c'est assez intéressant, ces miracles beaucoup correspondent au miracle de Jésus. Même près des régions où Jésus a fait des choses, Élie et Élisée ont fait ces différentes choses. Donc là, on a ces prophètes, ils n'ont jamais rien écrit, mais ce sont quand même des prophètes que nous avons dans l'Ancien Testament. Et puis, après, on va tomber sur ce que nous appelons, si vous cherchez dans vos Bibles, dans Ésaïe, vous cherchez Ésaïe, okay, et vous prenez Ésaïe, et puis après, vous allez jusqu'au début du Nouveau Testament, okay, et là, vous avez toutes les prophéties, donc la plupart d'entre vous, ça va être Malachie. Donc, ça va terminer dans vos Bibles avec Malachie. Là, vous avez donc ce qu'on appelle les quatre grands prophètes, qui sont Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. D'accord? Et ils ne sont pas mis nécessairement en ordre chronologique. D'accord? Ça ne nous aide pas. Mais ce sont les grands prophètes, c'est-à-dire ils ont écrit un peu plus que les autres. Et eux, ils vont couvrir la période de temps, c'est ici, juste avant la chute d'Israël dans le Nord, jusqu'à après, ici, après la destruction de Jérusalem. Par exemple, Ézéchiel va être un prophète qui va prophétiser où? Bon, pas à Jérusalem, il sera, vous vous souvenez, il sera en Babylone, ok, qui va faire. Et Daniel, vous connaissez les histoires de Daniel, ok, il est pris en captivité très jeune, probablement une dizaine d'années avant la chute, ou même plus avant la chute de Jérusalem. Il est pris comme prisonnier, comme captif, hein, et il va vivre donc à Babylone, et là, vous voyez que là, tout ce qui se passe, la fosse aux lions, le truc qui arde dans le four avec ses amis, on appelle fournaise ardente, ok, la statue de Nebuchadnezzar, toutes ces différentes choses, donc, qui va les prophétiser au Babylone. Et puis après, vous avez donc des prophètes qui étaient envoyés au nord. Donc ça veut dire avant la destruction ici. Ces prophètes sont des prophètes comme Amos ou Osée. Il y a deux prophètes que tout le monde aime, c'est Osée et Agée, n'est-ce pas? Donc Osée, vous vous souvenez de son histoire, il doit se marier avec une prostituée. Okay? Et vous vous souvenez sans doute de cela. Pas du tout, d'accord, pas de problème. Et puis, après, nous avons un Amos. Amos, c'est un fermier, et lui, il reçoit un appel de Dieu, comme cela. Et puis, il n'est ni prophète, ni fils de prophète. Ça veut dire qu'il n'a pas reçu d'instruction universitaire pour devenir un prophète. Et lui, il doit prophétiser ici en Israël du Nord. Okay? Dans le Sud, il y en a plein qui vient. Il y en a plein, il y a Ésaïe. Donc lui, c'est 8e siècle, donc ça veut dire 750 avant Jésus-Christ, plus ou moins. Michée, Joël, Sophonie, Habacuc, Jérémie, okay, qui couvrent toute cette période, ici jusqu'à 587, donc de 800 jusqu'à 587. Et dans toute cette période, ils vont la plupart du temps passer le temps dans un endroit géographique très petit. Ça veut dire Jérusalem, Judée, c'est pas énorme, hein? 20 kilomètres au nord, peut-être 40 kilomètres au sud, jusqu'à la rivière Jourdain, jusqu'à la Méditerranée, à la mer. Donc c'est pas très grand cet endroit, mais ils vont passer tout le temps, principalement à Jérusalem, à prophétiser. Et puis après l'exil, donc nous entendons bien, il n'y a plus le nord qui existe. Après l'exil, ça sera Agée, Zacharie et Malachie. Donc dans vos Bibles, les derniers deux que vous avez, qui sont Zacharie et Malachie, correspondent vraiment à la fin de cette période donc prophétique qui est là. Bon, je vous ai parlé beaucoup de cela, mais vous savez que même dans la Bible, il y a des prophètes qui n'étaient pas des prophètes pour ni Israël ni Juda. Et on a leur livre dans la Bible. Un, vous connaissez très bien, il était avalé par un poisson. Okay. Donc Jonas, qui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il est né tout près de Nazareth. Okay. Même son tombeau existait là-bas, près de Nazareth. Et c'est très intéressant parce que c'est le seul prophète auquel Jésus fait référence lui-même en parlant de lui-même. Okay. Comme Jonas a passé 3 jours dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme va passer trois jours dans la terre, disons, dans la mort. Okay? Donc, cela, on a Jonas. On a un autre qui s'appelait Abdias, et lui, il va prophétiser contre Édom. Édom, c'est dans le sud, c'est près de la mer Morte, mais plus au sud et plus à l'est. Et puis, il y a un dernier qui s'appelle Nahum. Et lui, il va prophétiser contre Ninive. Donc, juste pour que vous sachiez que dans la Bible, vous avez des écrits qui n'étaient même pas pour les Juifs, entre guillemets, pour les Hébreux. C'était Dieu qui a envoyé des prophètes envers d'autres nations. Bon, après en exil, vous avez deux qui sont Ézéchiel et Daniel. Alors, je sais qu'on a passé beaucoup trop de temps là-dessus, mais il faut quand même avoir un contexte. Quand on parle des prophètes, on parle de 400 ans,
On parle de ceux qui étaient en Israël. On parle de ceux qui étaient à Juda, à Jérusalem. On parle de ceux qui ont prophétisé contre d'autres pays. On a de ceux qui étaient en exil et ceux qui étaient là après qu'on Néhémie, Esdras, etc. sont revenus.
Donc, il faut un peu regarder quel est le contexte de chacun d'eux. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Est-ce que jusqu'à là, ça va pour vous? Ok, bien. On va ralentir juste un peu. Okay. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Alors, si je vous dis, j'ai une prophétie à vous dire, vous allez penser tout de suite à l'avenir. Okay. Bon, d'abord que j'ai perdu quelque chose, mais après, vous allez dire, je vais parler de l'avenir. Okay. Et quand on dit qu'il a prophétisé, dans le langage d'aujourd'hui, c'est qu'on a révélé l'avenir. Mais dans la Bible, quand on parle de prophétie, on n'est pas en train de parler des oracles de Dieu, c'est-à-dire quelque chose que Dieu a révélé à ses prophètes, et il veut que les prophètes annoncent cela aux autres. Et c'est pour cela que les prophètes n'étaient pas nécessairement des gens qui prédisaient l'avenir. Et même, moi je dirais, ce n'est pas leur rôle principal. Ce n'est pas leur rôle principal. Leur rôle principal était de prononcer ou d'annoncer les oracles de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu avait dit à leur oreille, ils devaient l'annoncer au peuple. Et c'est pour cela que, par exemple, Jésus dirait dans Luc chapitre 20, le verset 24, il dira, je vous le dis, en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. C'est pas parce qu'ils acceptent pas qu'on prédise l'avenir. C'est parce qu'ils proclament les oracles de Dieu pour les appeler à la repentance. Et puis, ils disent, mais comment, ça vient vraiment de Dieu? On connaît ses parents, sa maman, on connaît ses frères, on connaît ses sœurs. Donc, est-ce que cette proclamation vient vraiment de Dieu? Donc, ce n'est pas celui qui prédit l'avenir, même s'il y a des prédictions de l'avenir. Mais c'est plutôt celui qui va proclamer un message qui vient de Dieu. Et pourquoi il n'est pas pris au sérieux? Parce que souvent, le message va appeler les gens à la repentance pour revenir à Dieu. Et eux, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts pour cela. Je vous donne un exemple. Jérémie, chapitre 37. Alors, là, c'est juste après Ésaïe. Donc, quand j'ai dit Jérémie 37, vous cherchez dans vos Bibles. Voilà. Et comme ça, vous allez tomber sur un petit passage. Jérémie 37, le verset 17 et suivant. Alors, juste pour vous mettre dans le bain, donc Jérémie, il est ici, okay, juste avant la chute de Jérusalem, il est à Jérusalem. Okay. Il se trouve maintenant au fond d'une puits. Okay. Pourquoi? Parce qu'il a prêché des choses contre le gouvernement, et le gouvernement n'a pas apprécié cela, et le roi, qui s'appelle Sédécias, il a mis au fond d'une puits. Okay. Donc, la vie du prophète n'était que rarement drôle. Okay. Là, il est au fond d'une puits. Et puis, regardez ce qui se passe au verset 17. Le roi Sédécias, donc on est dans Jérémie 37, le verset 17. Le roi Sédécias l'envoya chercher et le roi l'interrogea secrètement dans son palais et dit, y a-t-il une parole de la part de l'Éternel? Okay. On demande au prophète, y a-t-il une parole de la part de l'Éternel? Jérémie répondit, « Oui. » Il ajouta, « Tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. » Ce n'est pas une bonne nouvelle. Non. Entends bien, il prédit l'avenir. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que à cause de votre désobéissance, et la désobéissance de ses parents aussi, c'est-à-dire les rois qui avaient introduit l'idolâtrie en Israël, à cause de cela, donc il allait être livré aux Babyloniens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Jérémie? Il est libéré pour un peu de temps, mais la vie ne devient pas plus facile pour lui. Mais notons bien, le roi vient à lui, pas pour qu'il simplement il prédise l'avenir, mais il dit, est-ce qu'il y a une parole de l'Éternel? Donc, le prophète va prendre une parole de l'Éternel et il va le proclamer aux autres. Ici, c'est au roi. Juste pour vous donner un exemple de ce que c'est, et vous cherchez ici dans Exode chapitre 4. Donc on est avant les prophètes, mais comme ça vous allez voir ce que c'est que les prophètes. Exode chapitre 4. Là on a Moïse qui est appelé par Dieu à délivrer le peuple. Et vous savez c'est « Laisse aller mon peuple ». Ok. Et c'est ceci qui se passe dans Exode 4, le verset 14. Alors Moïse dit « Mais je ne peux pas parler.
J'arrive pas à parler, je bégaye, j'ai pas la parole facile. C'est ça qui est. Et il le dit plusieurs fois, et Dieu, à la fin, il se met en colère contre Moïse. Alors, on est dans Exode chapitre 4, verset 14. Alors, le Seigneur se mit en colère contre Moïse et lui dit, tu as un frère, Aaron le Lévite. Je sais qu'il est éloquent. Lui, n'est-ce pas? D'ailleurs, il est déjà en route pour venir te trouver. Dès qu'il te verra, il sera plein de joie. Tu lui parleras. Tu lui communiqueras ce qu'il devra dire. Moi-même, je serai avec chacun de vous quand vous parlerez et je vous indiquerai ce que vous aurez à faire. C'est lui qui s'adressera au peuple à ta place. Il sera ton porte-parole. Et toi, tu seras comme le Dieu qui l'inspire. On entend bien ce qui se passe ici. Il dit, moi, je ne peux pas parler, je peux parler. Dieu dit, je n'ai marre, arrête, ton frère vient. Et lui, il est éloquent. Alors, je vais vous parler aux deux. Okay? Et quand vous allez devant le peuple, c'est Aaron qui va parler pour vous. Okay? Mais Aaron va dire les choses que toi, tu lui auras dit. Okay? Donc, il sera ton porte-parole. C'est lui qui va annoncer au peuple. Et donc, le peuple va te regarder comme Dieu et lui comme ton prophète. Donc, il chuchote dans l'oreille et puis Aaron proclame. Il chuchote dans l'oreille et Aaron proclame. Et toutes ces choses qu'Aaron proclame seront les paroles de Moïse, mais apportées au peuple par Aaron. Et Aaron se rend donc le porte-parole de Moïse. Mais ce qui est intéressant, il dit, il sera ton porte-parole et toi tu seras comme le Dieu qui l'inspire. Comme le Dieu qui l'inspire. Alors, vous dites, oui, mais il dit porte-parole. Porte-parole, est-ce que c'est la même chose qu'un prophète? Oui, c'est la même chose. Parce que si vous tournez la page dans Exode chapitre 7, regardez Exode chapitre 7. Exode 7, les versets 1 à 2. Et tout le monde l'a trouvé? 7, 1, 2. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera, quoi? Ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron le répétera au Pharaon pour qu'il laisse partir le fils d'Israël hors de son pays. » Donc là, il dit que Aaron va devenir quoi, le prophète de Moïse. C'est-à-dire, Moïse dit à Aaron, Aaron va dire à Pharaon, et Pharaon va croire, entre guillemets, croire, c'est pas vrai, que Moïse est Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui inspire Aaron à dire toutes ces différentes choses. Donc, Moïse est comme Dieu, Aaron est le prophète de Moïse, et l'auditoire est Pharaon. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le prophète, donc, dans l'Ancien Testament, qui est à l'écoute de qui? De Dieu. Okay? Et qu'est-ce qu'il fait quand il entend Dieu qui a un message pour son peuple? Il va le proclamer. Si c'est l'avenir, c'est l'avenir. Si c'est la repentance, c'est la repentance. Si c'est de dire, voici comment il faut vivre, voici comment il faut vivre, etc. Un autre mot qui est utilisé dans les Écritures, c'est de parler du guetteur. Du guetteur. Vous savez ce que c'est qu'un guetteur? Okay. Moi, il fallait que je cherche dans un dictionnaire. Hein. Okay. Le guetteur, c'est celui qui va se mettre sur les murailles, qui regarde vers l'extérieur et quand il voit l'ennemi, ou les messagers venir, il va proclamer ce message à l'intérieur des murailles. D'accord? Ésaïe chapitre 21, le verset 6. Ésaïe chapitre 21, le verset 6. Donc, Ésaïe 66 chapitre, dans ce livre rempli de proclamations de Dieu, il dit, « Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place le guetteur, qu'il annonce ce qu'il verra. » Donc, notons bien, il n'est pas simplement celui qui entend ce que Dieu dit, et puis il dit, il est celui qui se met sur les murailles, il regarde ce qui se passe à l'extérieur de la ville, et quand il voit l'ennemi qui arrive, il crie à l'intérieur. Quand il voit que le messager du roi arrive, il dit « Ouvrez les portes ». Okay? C'est ça qu'il dit. Et de la même façon, ce prophète est celui qui regarde ce que Dieu est en train de faire. Il est inspiré par Dieu et puis il annonce au peuple qui est à l'intérieur. Jérémie a dit la même chose. Vous n'êtes pas obligé de chercher, c'est Jérémie 6, 17. Il dit, j'ai suscité pour vous des sentinelles. Soyez attentifs au son du corps. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Les sentinelles sont les prophètes qui regardent ce qui va se passer, mais le peuple n'écoute pas les prophètes. Donc, vous avez cette idée de porte-parole, vous avez cette idée de sentinelle ou de guetteur, puis il y a un dernier que je veux partager avec vous qui est assez bien, parce qu'on entend ce mot aujourd'hui et on pense à autre chose. Voyons. Voyons. On entend voyons aujourd'hui, mystérieux et tout cela. À l'époque, un prophète était simplement connu, spécialement dans cette période-ci, un prophète était connu comme un voyant. Pourquoi? Parce qu'il avait des visions, il avait des rêves, il regardait quelque chose et Dieu lui donnait un message à travers ce quelque chose. Et donc, il était un voyant qui voyait ce que Dieu voulait lui montrer. Si vous regardez par exemple dans 1 Samuel, il y a Saül qui a perdu, le papa de Saül qui a perdu ses ânes, et donc c'est Samuel qui doit aller les chercher avec un serviteur, avec un esclave. Et donc, en 1 Samuel chapitre 9, le verset 9, il dit, allons chez le voyant. Ah, ça c'est, je suis dans un roi, attendez, je suis dans 1 Samuel. Et puis, il dit ici une explication dans 1 Samuel 9, 9, qui est une des raisons pour lesquelles je crois pas que ce livre soit écrit à l'époque, disons, de Samuel. C'est pas Samuel qui l'a écrit, parce qu'il doit expliquer le vocabulaire qui était utilisé de l'époque. Et ça, on n'explique pas le vocabulaire de l'époque à des gens qui comprennent l'époque. Okay? Il faut l'expliquer plus tard. Mais regardez 1 Samuel, le chapitre 9. Le verset 8. Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici que j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, l'homme qui allait consulter Dieu disait, venez, allons chez le voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, bien dit, viens, allons-y. Et ils allèrent à la ville où était l'homme de Dieu. Okay? Donc là, on voit l'homme de Dieu, c'est le voyant, celui qui Dieu va révéler des choses par diverses manières. Nous remarquons ici donc que le prophète n'est pas simplement celui qui prédise l'avenir. Okay? C'est celui qui est le porte-parole de Dieu. C'est celui qui est le sentinelle qui se met sur les murailles et qui annonce à l'intérieur de la ville ce qui se passe. Donc, il voit ce que Dieu est en train de faire, Dieu révèle, et puis il annonce aux autres. Et puis, il est le voyant qui, à travers des rêves, des visions, etc., va donner un message au peuple. Okay? Il est connu comme cet homme de Dieu. Alors, Dieu, on dit dans l'Ancien Testament, ne fait rien sans le révéler à ses prophètes. C'est-à-dire, aucune destruction viendra sur Israël qui n'a pas été révélée aux prophètes. Et donc, Dieu va toujours leur donner la possibilité de voir ces choses. Voilà, ça va pour vous? Okay. Est-ce que vous avez des questions? C'était un peu trop peut-être en peu de temps, mais est-ce que vous avez des questions là-dessus? Okay, donc, vous comprenez les périodes. Okay. Donc, chaque fois qu'on va parler, par exemple, si la semaine prochaine c'est Amos, ok? On va expliquer un peu la période. Amos, c'est cette période-ci. On va parler de ces différentes choses. Hein? Si on dit Ézéchiel, on sait qu'on est ici à Babylone. Oui. Oui, absolument. Donc, Jean-Baptiste sera le dernier des prophètes. Et même Jésus va lui dire, donc, jusqu'à Jean-Baptiste, on annonçait l'avènement du royaume, mais maintenant le royaume est venu parmi vous. Absolument. Jean-Baptiste est le dernier des prophètes. Ce n'est pas dans notre étude parce qu'il n'est pas de l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans les écrits hébraïques. Bon commentaire. Qui sont pas quoi? Oui.
Donc, ça impression quand il y a Jéroboam qui va construire, donc
il est le roi du Nord ici, après la division, donc il est juste là. Juste après la division, donc ce roi,
il va construire deux hôtels par accord, etc. Hôtel pour sacrifier, l'un au nord d'Israël et puis l'autre à Bethel. Et il y aura un prophète de Dieu qui sera envoyé à Bethel, qui doit prophétiser contre Jéroboam et cela. Et vous vous souvenez de son histoire? Il est tué par un lion. Ah, ouais. Plein de belles choses qu'on peut découvrir dans les Écritures. Mais il y a des prophètes comme cela. Il y en a d'autres aussi, n'est-ce pas? Oui. Oui. Non. Il y a des théories qui existent. Mais juste pour dire, peut-être à distance, le temps n'est pas très loin de cela. Et ça ne met pas en doute la fiabilité de cela. Souvent, quand on lit 1 de Samuel, Chronique et les Rois, on voit qu'ils ont utilisé d'autres documents. Il a dit, si vous voulez savoir plus, vous lisez dans les chroniques de ceci, tout ce qu'il a fait. Okay? Donc souvent, ils ont utilisé d'autres écrits pour écrire ces choses-là. On ne sait pas exactement qui l'a écrit. Je crois que c'est avant l'exil, ce qui est très important. Probablement, c'est dans cette période ici, après le départ de Salomon et tout, et parce qu'il y a beaucoup de... Il y a une vraie insistance, il y a vraiment une emphase sur de parler de David et de son règne et de sa descendance. Donc que Dieu a vraiment choisi David. Et sans doute le peuple au sud avait besoin de comprendre cela dans toute l'histoire. Ok? Bonne question. Est-ce qu'il y en a d'autres? Pardon? Souvent on les écoutait. Ouais, souvent, malheureusement, on les écoutait, les faux prophètes. Il y a une histoire vraiment, vraiment drôle qui est triste hein, à la fois. C'est le roi qui appelle, c'est le roi qui veut faire la guerre, une alliance entre les deux. Ils vont faire la guerre et au nord, je crois que c'est Akav, et au sud, c'est... J'oublie, c'est un roi qui était assez bon. Joas, c'est un qui commence avec un I, ouais. Il y en a beaucoup. Mais bref, je vous dis ce qui se passe. Le roi du nord veut faire la guerre. Le roi du sud dit, on fera la guerre seulement s'il y a un prophète qui vient. Okay? Et donc le roi du nord, il appelle tous les prophètes, et tous les prophètes disent, va à la guerre, on va gagner. Puis le roi du sud dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un prophète de Dieu qui est là? Et le roi dit, oui, il y en a un. Mais il dit jamais des choses favorables. Okay? Donc, les gens, ils aimaient bien écouter les prophètes qui donnaient des discours favorables. Il y a un faux prophète au temps de Jérémie qui s'appelait Pashur. Okay? Et Pashur proclamait que le peuple serait délivré des Babyloniens. Et Jérémie a dit, c'est pas vrai. Pashur l'a fait que Jérémie était mis dans un, comment est-ce qu'on appelle cela? Ouais. Quand on a un truc, on met la tête dessus et puis... Okay. Voilà, donc il a dû porter. Donc souvent on a écouté les autres. Ok, merci pour les questions. Juste, pourquoi étudier les prophètes? Mais franchement, pourquoi passer peut-être 9 mois à étudier les prophètes de l'Ancien Testament? Ah, mais ça sert à quoi? Bon, d'abord, il faut savoir ceci, qu'on va étudier les prophètes que 2 ou 3 fois par mois maximum. Okay? Il y aura toujours un invité qui va venir, vous dites, oh, heureusement, okay, il n'y a pas les prophètes. Et il y aura aussi des sujets libres. Okay? Mais écoutez bien ce que les écrivains du Nouveau Testament pensaient des prophètes. Écoutez bien ce qu'ils disaient. Il y a Pierre qui dit dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 19 à 21. Écoutez ce qu'il dit. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre
et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Bon, pourquoi? Il dit, parce que Dieu parle à travers ses hommes. Bon, même Déborah était connue aussi comme une prophétesse dans l'Ancien Testament. Mais Dieu parlait à travers ces personnes. Et donc, il dit, prêtez attention. C'est comme une lumière qui brille dans un lieu obscur. Et nous voyons aussi que Paul, en écrivant à l'Église, il dit que l'Église est construite sur les prophètes et les apôtres. C'est notre fondement, c'est notre fondation. Et si on ne lit pas les prophètes, si on n'apprend pas les prophètes, alors notre fondement n'est pas solide. Vous comprenez? Ce n'est pas solide. Okay. Les apôtres, quand les apôtres ont prêché, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les apôtres, par exemple, Pierre, devant la foule, a dit, tous les prophètes ont parlé depuis Samuel à ses successeurs. Ils ont annoncé ces jours-ci. Okay. C'est ça que dit Pierre. Il va aux prophètes pour proclamer qui est Jésus. Donc ça, c'est la première chose. C'est la fondation, c'est le fondement de notre foi. Deuxième chose qui est très importante, c'est qu'il y a des passages d'une beauté extraordinaire, parce que ça vient du plus grand prophète, pardon, plus grand poète. Ça vient de Dieu lui-même. Ce sont des oracles de Dieu. C'est Dieu qui parle directement à travers ses porte-paroles, et il exprime sa volonté et sa poésie. Écoutez bien. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ce sont les paroles de Dieu lui-même. Qui dit d'une manière extraordinaire ce qu'il attend de nous. Et si nous ne lisons pas cela, ou si nous n'apprenons pas cela, nous allons louper ce que le plus grand poète a à nous dire. Et puis, n'oubliez pas que Jésus se baignait dans les prophètes. Jésus se baigne. Quand il va dans sa ville, son village de Nazareth, et on lui donne le prophète d'Ésaïe. Et il lit le prophète Isaïe et dit, aujourd'hui, c'est accompli, ça parle de moi. Il connaissait cela. Écoutez bien ceci. Okay? Écoutez bien ceci. Car le fils flétrit le père. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour des ennemis les gens de sa maison. Chacun a pour ses ennemis les gens de sa maison. Okay? Qui a dit cela? C'est Jésus qui a dit ça. Okay? Qui a dit cela 700 ans avant, c'était le prophète Michée. Michée qui parlait de ce qui allait se passer, mais Jésus a dit exactement la même chose dans Matthieu chapitre 10 et dans Luc chapitre quelque chose. Il dit, la fille se soulève contre sa mère, la belle fille contre sa belle-mère, et chacun pour des ennemis les gens de sa maison. Oui. Alors, donc ça c'est très intéressant, donc les livres deutérocanoniques, et juste pour savoir, donc ça veut dire par exemple des livres qui sont acceptés dans la Bible catholique par exemple? Ok, la Bible catholique, et juste pour dire qu'il y a un seul livre prophétique qui se trouve dans la Bible catholique, qui n'est pas dans la Bible hébraïque, ok? Donc, juste pour savoir, la Bible que nous avons, l'Ancien Testament n'est pas basé sur une Bible catholique ni protestante. C'est basé sur la Bible hébraïque. C'est-à-dire, quand le peuple d'Israël, c'était juste avant que Jésus arrive, le peuple disait, quels sont les livres canoniques? Quels sont les livres que nous considérons comme inspirés de Dieu? Alors, ils ont établi ce qu'on appelle un canon ou une liste hébraïque de la Bible. Et les protestants, donc nous utilisons ce que les juifs de l'époque considéraient comme inspiré de Dieu. Par contre, la Bible catholique a un qui s'appelle Baruch. Et c'est le seul qui existe, qui n'est pas dans notre Bible.
Baruch était le scribe de Jérémie. Okay? Mais notons bien que le titre qui est donné à cela, on ne sait pas, probablement ça n'a rien à voir avec le vrai Baruch, mais c'était un nom qu'on a donné pour donner une certaine crédibilité à ce livre. Okay? Mais il y a un seul, c'est pas comme les autres livres d'histoire, par exemple les Maccabées, etc.
Ok, je t'en prie.
Alors, donc là, on arrive à notre fin de ce que nous avons vu. D'abord, nous avons vu la période. Et nous voyons que ça couvre une période assez longue, quand on parle d'écrit, mais dans des contextes totalement différents. Et donc, toujours, prenez juste 2 minutes pour lire les notes quand vous allez commencer à lire. Deuxième chose, nous avons vu qu'un prophète, ce n'est pas nécessairement celui qui prédit l'avenir. Ce n'est pas son rôle principal. Son rôle, c'est de proclamer ce qu'il entend de Dieu aux autres, de raconter les... Il est un porte-parole. Nous avons vu aussi qu'il est le sentinelle, qui voit de l'extérieur, et après, il dit à l'intérieur de la ville ce qu'il voit. Et puis, nous avons vu aussi qu'il est le voyant. À travers des visions, à travers des rêves, il va interpréter ces choses. Et puis, à la fin de tout cela, nous voyons qu'on étudie ces choses parce que c'est Dieu qui nous parle, inspiré de Dieu. C'est le fondement de notre foi, ce qu'on dit les prophètes et les apôtres. Et nous remarquons aussi qu'il y a une beauté extraordinaire dans ces passages et que Jésus lui-même les citait tout à fait naturellement sans que nous nous rendions compte de cela. Et donc, le plus que nous comprenons les prophètes, le plus on va comprendre ce que Jésus avait à dire au premier siècle et ce qu'il a à dire à chacun de nous.